Donc, merci à François Bourguignon de nous avoir rejoints. Merci d'autant plus qu'il était déjà intervenu donc, lors d'un petit déjeuner que nous avions fait le 8-9 du fonds de dotation de l'école aux études, que nous avions fait donc, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Et donc, c'est un plaisir particulier de l'accueillir une seconde fois donc, pour nous parler aujourd'hui d'accélération et décélération du développement économique. Je me dispense de présenter François Bourguignon, qui n'est pas à présenter. Et on entre donc tout de suite dans le vif du sujet.
Donc, le titre de mon intervention, je crois, résume bien le sujet. Ce que je voudrais regarder, c'est la façon dont se déroule le développement économique dans le monde. Et je vais prendre tout de suite une image. Une image poétique d'abord, une image sportive et d'actualité ensuite. L'image poétique, elle est japonaise, c'est le vol des oies sauvages. Et l'idée du vol des oies sauvages, c'est de dire que finalement, dans le développement économique, et c'était une image qui était utilisée notamment pour les économies asiatiques, dans le développement économique, il y a un leader suivi de quelques oies qui rattrapent progressivement le leader. Et il y a de plus en plus d'oies qui sont en route pour rattraper le leader et qui voyagent avec le leader. Et donc c'est une espèce de triangle qu'on voit des oies qui migrent dans une direction ou dans une autre, représente un peu le processus de développement des économies asiatiques. Alors ça, c'est intéressant dans la mesure où ça suppose qu'il y a effectivement des effets d'accélération dans l'économie mondiale qui se localisent dans un pays particulier. Et on peut appeler ça les effets d'imitation. Le processus gagne localement. Et puis finalement, on a tout un groupe de pays qui voguent, qui volent plus exactement, vers le développement économique. Ça, c'est l'image poétique. L'image sportive, c'est purement et simplement le Tour de France qui doit démarrer demain ou après-demain. Et c'est la même idée, c'est de regarder quand on sera en cours, quand on regardera les étapes du Tour de France, de remarquer qu'on a, de façon générale, des échappées, des gens qui sont à la poursuite des échappés, mais devant le peloton, à l'intérieur du peloton, des gens qui sont plutôt en tête du peloton, et puis tout au bout, on a les lanternes rouges. Et éventuellement, cet ordre se modifie. L'échappé en tête se fait rattraper par d'autres, d'autres échappés ont lieu, et on peut essayer de regarder l'évolution de l'économie mondiale de cette façon-là. J'avais oublié, ou en tout cas c'est une erreur de ma part, une présentation PowerPoint dans laquelle il y avait un très beau graphique qui représente l'évolution du produit intérieur par tête, disons le niveau de vie, dans un certain nombre d'économies depuis le début du 19e. Et ce qu'on constate, c'est effectivement l'histoire que je viens de raconter. On a en 1820, le pays qui est en tête n'est pas l'Angleterre, c'est les Pays-Bas. Et puis l'Angleterre rentre dans la révolution industrielle, rattrape les Pays-Bas. Et puis un petit peu plus tard, il y a l'Europe continentale qui démarre. Et puis il y a les États-Unis qui démarrent. Et on a ces échappées, l'Europe, les États-Unis, éventuellement les rejets européens dans le reste du monde, Australie, Canada, etc., qui font effectivement la course en tête. Et ce qu'on remarque, et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce processus est un processus qui est très continu. La croissance s'accélère à certains moments, pas énormément, elle se ralentit à d'autres moments, pas énormément. Quand on prend la trajectoire de ces différents pays, c'est finalement quelque chose qui est assez rectiligne. Et puis, derrière, le peloton est très très loin derrière. C'est l'Asie, c'est l'Amérique latine, qui est en fait plutôt en tête du peloton, l'Amérique latine. C'est évidemment l'Afrique. Et puis, un premier rattrapage, quelqu'un qui quitte le peloton, le Japon, L'Hermégie, enfin le Commodore Perry vient dire bonjour aux Japonais. On a cette première modernisation du Japon dans les fin du 19e. Et puis la guerre, grande chute au Japon, et puis une accélération vertigineuse qui fait que le Japon retrouve très très vite le peloton de tête. Et c'est là qu'on retrouve les oies sauvages, parce que après le Japon, on a, alors c'est pas des oies, c'est plutôt des dragons, ceux qu'on appelle les dragons asiatiques, hein, la Corée, Taïwan, Singapour, Hong Kong, qui en fait ont un parcours tout à fait similaire à celui du Japon, c'est-à-dire soudainement une accélération extraordinaire vers les années 60, 1960, et ils ne sont pas encore ni les uns ni les autres au niveau des pays les plus développés, mais ils s'en rapprochent énormément. Et ce phénomène d'accélération brutale a lieu maintenant dans plusieurs autres économies, y compris des grandes économies. Alors on est passé des dragons asiatiques ensuite aux tigres, qui étaient la Malaisie, Thaïlande, etc. Et maintenant on a les économies géantes de l'Asie, c'est-à-dire la Chine et l'Inde, qui sont dans un processus de ce type-là, dans lequel on a une accélération soudaine. C'est vrai de façon tout à fait extraordinaire en Chine. C'est vrai aussi en Inde, au tournant des années 90, on a cette accélération qui a lieu. Et donc, ce qui est, je pense que cette idée d'accélération trouve une bonne application dans le cas du développement économique, parce que, à l'opposé de ce qui s'était passé pour ces économies anciennes et aujourd'hui développées, qui ont eu une croissance très régulière pendant pratiquement deux siècles, on a, dans les effets, dans les performances les plus récentes de développement économique, on a ces effets d'accélération. Alors, ces derniers temps, on vivait avec l'idée que, éventuellement, ce processus avait gagné l'Amérique latine, avait gagné l'Afrique. C'est vrai que les années 2000 ont été des années tout à fait fastes pour toutes les économies en développement. Et l'idée a flotté pendant un certain temps, dire, ben, même dans certains pays, en allant en Afrique, on parlait, enfin je crois qu'on le fait encore aujourd'hui, mais on le fera probablement de moins en moins dans les années qui vont venir, on parlait de croissance à la chinoise parce qu'ils avaient le sentiment que ça avait décollé et qu'ils étaient partis pour le même type d'accélération qu'avait vécu le Japon, la Corée, etc. etc. Alors la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'on comprend bien ce phénomène d'accélération ? Est-ce qu'effectivement, on peut penser que c'est quelque chose qui va s'enclencher de façon plus ou moins naturelle, ou est-ce qu'on a beaucoup d'inconnus sur le fait de savoir si l'Amérique latine, en dehors des vedettes, de la vedette que peut être le Chili à l'heure actuelle, est-ce qu'on va voir ou on va voir continuer l'accélération observée durant les années 2000? Ou est-ce qu'il est possible que ces économies reviennent à des taux de croissance plus modérés, auquel cas les écarts dans le peloton mondial vont perdurer et il ne faut pas penser à un rattrapage du peloton des échappés par le peloton. Donc ça signifie examiner un petit peu la théorie de la croissance. Qu'est-ce que les économistes ont à dire sur la théorie de la croissance? C'est quelque chose qui a été très, très, très présent toutes ces dernières années. Il y a dans le domaine économique des cycles d'intérêt. La croissance avait complètement disparu du paysage durant les années 80 parce qu'il y avait cet énorme ajustement macroéconomique qui était en cours. La croissance a réapparu au premier plan à la fin des années 80, au début des années 90. Elle est restée très très vivace jusqu'à maintenant. On va voir si les problèmes de crise et les problèmes macroéconomiques qu'on rencontre aujourd'hui ne vont pas éloigner la profession de l'analyse de ce mécanisme de croissance. Mais donc ce que je voudrais faire, c'est simplement résumer ce que les économistes pensent sur la croissance, notamment la croissance des économies en développement, des économies non industrialisées ou non développées, émergentes et en développement, et éventuellement, est-ce que cette théorie de la croissance nous permet de répondre à cette question de base qui est comment se produisent ces accélérations, comment se produisent ces décollages, suivis de temps en temps de rechutes, mais suivis souvent d'une croissance continue à un rythme plus modéré par la suite. Voilà, donc, premier point, résumé rapide de ce qu'on peut penser de la croissance, et donc notamment de la croissance dans les pays émergents et en développement. Pourquoi est-ce que je fais la distinction? Parce que cette distinction, c'est peut-être celle qui explique les trajectoires très différentes des économies, du développement historique des économies aujourd'hui développées et du développement des économies émergentes aujourd'hui. Mon ami, collègue Philippe Aguillon, qui travaille depuis longtemps sur des questions de croissance, a cette analyse qui, je crois, est très très pertinente et qui est partagée par beaucoup de gens, qui consiste à dire, finalement, quand on analyse la croissance, les pays aujourd'hui développés sont sur une sorte de frontière technologique. C'est eux qui ont développé les avancées technologiques ou les avancées organisationnelles qui font que nos économies fonctionnent de façon beaucoup plus efficace, sont beaucoup plus productives. Ils sont donc sur la frontière et pour eux, la croissance, c'est d'une part éventuellement accumuler un petit peu plus d'équipements, d'infrastructures, éventuellement améliorer encore l'éducation de leur population, mais c'est surtout améliorer la technologie, être capable de produire de nouvelles choses ou de produire éventuellement plus avec des moyens, avec des équipements qui sont meilleurs marchés, etc. Donc pour eux, la contrainte de la croissance, c'est de pousser, je reprends l'expression qu'on utilise en anglais, pousser la frontière. Et donc ça représente un investissement considérable puisque c'est toute l'activité de recherche et développement qui est derrière ça. Si maintenant on prend les économies émergentes et les économies en développement, leur situation est radicalement différente, parce que ces économies, finalement, peut-être qu'elles ne vont pas toutes imiter des économies aujourd'hui développées, mais elles vont probablement en imiter une bonne partie. Et de ce point de vue-là, les plans sont déjà prêts. Ils savent comment on doit accumuler, organiser l'infrastructure, organiser la production, éventuellement organiser le secteur urbain, les transports. Il y a des modèles devant eux. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une imitation, éventuellement une imitation intelligente, une adaptation à faire de quelque chose qui existe déjà. Et sur cette base-là, on voit bien qu'il y a une contrainte de moins dans le cas des économies émergentes et des économies en développement, qui peut expliquer justement le fait que soudainement, pour une raison ou pour une autre, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard, pour une raison ou pour une autre, il y a cette espèce de décollage qui a lieu. Donc, cette distinction entre les innovateurs, qui seraient les économies développées aujourd'hui, et puis les suiveurs, qui sont les économies émergentes et qui ont donc une contrainte une contrainte de moins par rapport aux économies développées. Alors à partir de là, si on cherche à expliquer la croissance des différentes économies, on voit que pour les économies en développement émergentes, le côté accumulation, le côté avoir de plus en plus d'équipements par travailleurs, avoir de plus en plus d'infrastructures, éduquer correctement sa main-d'œuvre, former correctement sa main-d'œuvre, en même temps que l'on suit les modèles qui ont été mis au point par les économies développées, la partie accumulation va jouer un rôle considérable pour expliquer la croissance. Et quand on prend probablement l'exemple historique, je crois que ça ne s'est jamais passé dans l'histoire et ça, peut-être que ça ne se repassera plus jamais, les 25 ans de croissance de la Chine à des taux de l'ordre de 10% par an, ont été, dans une large mesure, portés par des taux d'investissement qui étaient absolument considérables, tellement considérables que ça pose des problèmes, éventuellement, aujourd'hui, ça a déjà posé un certain nombre de problèmes, mais des taux d'investissement de 40% du produit intérieur, des choses qu'on avait rarement vues. Peut-être à une époque dans l'économie soviétique, mais même à cette époque-là, je crois qu'on est à peu près sûr aujourd'hui que ces chiffres ne sont pas corrects. Donc, on comprend pourquoi et comment l'accumulation joue un rôle important dans ces économies. Mais alors, si l'accumulation doit jouer un rôle important, on doit pouvoir expliquer de façon relativement facile les écarts de croissance entre pays. Il suffit de dire, de regarder les taux d'investissement, les efforts d'éducation, et on devrait en déduire immédiatement les écarts de croissance entre pays en développement émergents. Alors, c'est vrai jusqu'à un certain point, ça n'est pas complètement vrai. Il reste toute une partie qui n'est pas expliquée par l'accumulation. Ce que les économistes appellent la productivité totale des facteurs, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris en compte le fait qu'il y a plus d'équipements, il y a plus d'infrastructures, il y a une meilleure éducation de la main-d'œuvre, tout ça, ça augmente la productivité, on trouve que la productivité augmente un petit peu plus que ce qui serait justifié par cette accumulation. Donc c'est ça ce qu'on appelle la progression de la productivité totale des facteurs. Et elle est relativement différente entre pays. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a simplement la faculté d'imitation, d'adaptation, de se rapprocher de la frontière qui est différente entre pays. Mais là, on a effectivement une bonne explication de ce qui peut expliquer les écarts de croissance. Mais à ce stade-là, on peut se poser une deuxième question. Si vraiment c'est le cas, il suffit d'accumuler. Ben, pourquoi est-ce que tout le monde ne se met pas à accumuler rapidement, et pourquoi est-ce que tout le monde ne se met pas à imiter la Chine? Si effectivement, en l'espace de 10-15 ans, c'est possible de réaliser ces progrès-là, pourquoi est-ce que le Rwanda, le Laos ne se précipitent pas sur cette stratégie? Et là, on dit, mais attention, l'accumulation elle-même, elle est le résultat de comportement de la part des agents et aussi de politiques économiques mises en place par les gouvernants. Des politiques qui vont encourager l'entreprise ou qui vont décourager l'entreprise, la disponibilité d'infrastructures, l'ouverture au commerce international, le rôle joué en fait par la conjoncture internationale. Tout ça doit normalement affecter le comportement d'accumulation de la part des agents privés dans ces économies. Et donc, dans la théorie de la croissance, on est passé d'une étape dans laquelle, de façon presque mécanique, on expliquait la croissance par l'accumulation, à une étape dans laquelle, de façon moins mécanique, on a essayé d'expliquer la croissance par les politiques mises en œuvre. Et là, le débat est devenu déjà beaucoup plus intéressant et aussi beaucoup plus vigoureux, parce que c'est là qu'on a rencontré des gens qui ont dit « Non, mais pour libérer les forces de croissance, pour libérer l'esprit d'entreprise, l'investissement, etc., il est absolument nécessaire de libéraliser l'économie. Il est absolument nécessaire de déréguler ce qui est régulé. Il est absolument nécessaire d'ouvrir l'économie au commerce mondial, de profiter du progrès technique qui a lieu dans les autres pays et qui est finalement importé à travers le commerce international. Il est important d'avoir une politique fiscale qui ne décourage pas l'investissement, qui encourage les gens à avoir plus de revenus. Il est important d'avoir des politiques qui encouragent l'investissement éducatif de la part des familles, etc., etc. Et donc on est passé à une explication des différentiels de croissance basée sur les politiques. Et on voit bien comment et pourquoi L'enjeu idéologique était important parce que, sur la base de ce genre d'analyse, en comparant les expériences des pays sur des périodes relativement longues, ou éventuellement l'expérience de différents pays sur des séquences de périodes de 5 ans en 5 ans, pour voir comment les politiques à l'œuvre pendant une période de 5 ans ont produit des résultats en termes de croissance différents de politiques différentes mises en œuvre 5 ans plus tard, etc. Donc on a toute une analyse très sophistiquée, statistique très sophistiquée, qui tourne autour de ça. Et c'est à partir de là qu'on a eu tous ces grands débats sur est-ce qu'il faut ouvrir les économies, est-ce qu'il ne faut pas les ouvrir, est-ce qu'il faut libéraliser le secteur financier ou non. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Seulement pour dire une chose, c'est que la grande difficulté de cette mise en relation, c'est que, comme c'est très souvent le cas dans les sciences et dans les sciences sociales également, corrélation ne vaut pas causalité. Et donc, quand par exemple, je viens de parler du développement financier, basé sur l'idée qu'il y a une corrélation effectivement entre le développement du secteur financier et la croissance des économies, beaucoup de gens ont dit « Mais voilà, il faut absolument investir dans le secteur financier, il faut développer les banques, il faut ouvrir le secteur financier aux banques internationales, parce que c'est de ça que l'économie a besoin pour croître. » Mais on peut aussi renverser complètement l'argument et dire « Quand une économie est en croissance relativement forte, elle dégage des occasions d'investissement, elle dégage une épargne qui nécessite un secteur financier pour intermédier tout ça. Donc ça n'est pas le secteur financier qui cause la croissance, mais c'est plutôt la croissance qui cause le secteur financier. Donc problème, comment est-ce qu'on peut essayer de départager les opinions et de dire non, c'est la causalité va dans une direction, va dans une autre. Et là, il y a cette magie, cette baguette magique, c'est le terme que je cherchais, des économistes qui s'appelle l'instrumentation. Et c'est vraiment quelque chose d'important parce que dans tout ce débat, c'est quelque chose qui a joué un rôle assez considérable. Je vais prendre un exemple différent du secteur financier. Je prends un exemple qui me touche un peu parce que j'ai pas mal travaillé là-dessus, qui est l'exemple de l'aide au développement. Il y a tout un débat pour savoir si l'aide au développement accélère la croissance ou non. Donc on essaye de regarder s'il y a un rapport entre l'aide au développement rapportée au produit intérieur, au revenu national d'une économie, et son taux de croissance. Et puis on trouve des résultats qui sont très, très ambigus. Certains disent « Ah oui, il y a une grosse relation », d'autres disent « Non, ça dépend des périodes, c'est un peu compliqué ». Et un argument, ils vont dire « Oui, mais évidemment ». Quand on regarde l'aide au développement, de temps en temps, elle est donnée pour accélérer la croissance. Et puis dans d'autres cas, elle est donnée justement parce que la croissance va très mal. Il y a une croissance très faible pendant plusieurs années. La pauvreté augmente dans un pays. Et les bailleurs de fonds internationaux, les ONG, etc., les fondations type Gates, etc., donnent un petit peu plus d'argent à ces économies. Donc là, on voit bien qu'encore une fois, la causalité va dans les deux directions. Et pour arriver à régler ce problème de causalité, on se dit « Mais finalement, si l'aide au développement dépendait d'une variable dont on sait qu'elle n'a rien à voir avec la croissance, à ce moment-là, on pourrait passer par l'intermédiaire de cette variable en disant « l'aide dépend de cette variable X ». Qui n'a rien à voir avec le développement, qui est véritablement orthogonal, exogène par rapport au développement. Et donc, en disant que l'aide s'explique par cette variable X, ça revient à regarder le rapport qui existe entre la croissance et la variable X. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver comme variable X ? Dans le domaine de l'aide au développement, on a un petit peu tout. Mais les grands gagnants, la variable X grande gagnante, c'est de regarder qui étaient les puissances colonisatrices, anciennes colonisatrices des pays en développement, et de regarder l'évolution du produit intérieur dans ces économies-là. Autrement dit, ça revient à dire, on va prendre la France, le Portugal, l'Angleterre, bien évidemment, et puis on va regarder comment varie leur produit intérieur, l'Espagne, et éventuellement comment varie leur produit intérieur. Et selon la variation du produit intérieur, on peut se dire que l'aide que ces pays sont prêts à donner à l'Afrique, à l'Amérique latine, à l'Afrique australe, etc., va changer. Et donc on a une sorte de variable qui ne dépend plus du tout de la croissance du Rwanda, de l'Angola ou du Mozambique. Et donc maintenant, on a quelque chose qui nous permet effectivement de regarder beaucoup plus, de façon beaucoup plus propre, plus nette, le rapport entre aide et développement et croissance. Et là, on trouve que il n'y a rien ne se passe. Où il y a des débats qui continuent depuis longtemps. Certains disent que oui, d'autres disent que non. Bon, peu importe. Mais l'élément important dans toute cette histoire-là, c'est de dire ces politiques qui expliquent la croissance, c'est très bien, mais on n'est absolument pas sûr de la relation de causalité qui existe entre les deux. Même le commerce, même l'ouverture internationale, on peut très bien dire que c'est parce qu'une économie croît rapidement que soudainement elle a un avantage comparatif sur un certain nombre de marchés internationaux et que c'est à cause de ça que le commerce augmente, plutôt que le contraire. Donc, là, on est toujours un peu en train de nager, de ne pas trop bien, de ne pas aboutir à des conclusions très définitives sur le rôle de ces politiques. Mais, entre-temps, on a été un pas plus loin. Dis-moi maintenant, les politiques, finalement, est-ce que c'est le dernier stade de ce qui détermine la croissance ? Finalement, les politiques, le raisonnement a été le suivant. Elle résulte des interactions dans une société et elle résulte énormément du type de décision. Le fonctionnement de la société, qui prend des décisions, quelle est la nature du gouvernement, quel est le rapport entre le gouvernement et les entreprises, le rapport entre le gouvernement et l'ensemble de la population, est-ce qu'il y a une relation démocratique, est-ce qu'il y a un contrôle de l'exécutif, ou au contraire, est-ce que l'exécutif est complètement autocratique, est-ce qu'il y a une protection du droit de propriété, est-ce que c'est une société de droit ou non. C'est-à-dire, finalement, ce qui détermine la capacité des gens à entreprendre, c'est la protection de la propriété privée. Ce qui détermine la volonté d'un gouvernement à investir dans des infrastructures, c'est la certitude que ce gouvernement sera encore là pendant un certain temps. Donc l'idée a été de mettre les choses un cran plus haut en disant « ce sont les institutions qui déterminent la croissance des économies ». Et ça, c'est une théorie qui a énormément de succès, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très satisfaisant, se dire, une fois que la constitution d'une économie est écrite et qu'on sait que les gouvernements vont s'y tenir, on a finalement créé une façon pour l'ensemble des agents d'interagir, et dans un cadre de ce type-là, on a des relations qui sont plus ou moins favorables. Par exemple, beaucoup de gens se sont intéressés au régime juridique. Est-ce que la common law, ça permet de croître ou de se développer plus vite que le code civil ? Et puis une fois qu'on rentre là-dedans, on dit « Mais attention, le code civil, il a vraiment été inventé par Napoléon, très bien, mais il n'a pas été inventé par les Latino-Américains qui ont récupéré le code civil, ou par les Africains qui, colonisés par les Français, ont récupéré un système juridique dont ils n'étaient absolument pas responsables. » Et donc il y a tout un développement qui a eu lieu dans cette direction-là pour dire finalement ce qui explique la croissance plus ou moins rapide, c'est... ce sont les institutions. Et là, il y a eu un certain nombre de résultats assez extraordinaires. Et je crois que ça vaut la peine. Intellectuellement, il y a quelque chose qui est vraiment assez intéressant. Tout ça, je veux en dire un mot. Ces travaux-là sont liés aux travaux de deux économistes américains. En fait, non, même pas. D'ailleurs, un Turc et un Anglais, les deux vivant aux États-Unis, Daron Acemoglu et Jim Robinson, qui viennent d'écrire un livre qui s'appelle « Pourquoi les nations échouent ?»« Why Nations Fail ?» qui est vraiment tiré de l'ensemble des travaux qu'ils ont faits. Et l'une de leurs contributions, c'est la suivante, c'est de montrer qu'il existe une relation forte entre, et ça c'est important, non pas le taux de croissance, mais le niveau de développement mesuré par le revenu par tête dans un pays et plusieurs institutions, et en particulier la protection des droits de propriété. Et accessoirement, le degré de contrôle de l'exécutif par le reste de la population. Et la relation est assez forte, effectivement. Et alors, évidemment, on leur a immédiatement dit « Attendez, dans quel sens va la causalité ? C'est parce que les gens sont riches qu'ils deviennent démocratiques, ou bien c'est parce que les gens sont riches qu'ils veulent protéger leur propriété ?» Donc là, de nouveau, recours à la baguette magique de l'instrumentation. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme instrument qui explique aujourd'hui des différences entre pays en termes d'institutions et qui ne sont pas reliées à l'activité et au niveau de revenus de ces pays aujourd'hui? Et là où ils ont surpris quand même pas mal de gens, c'est que l'instrument qu'ils ont trouvé, c'est la mortalité des colons européens dans différents pays du monde au XVIe siècle. Donc là, ils pouvaient dire, attendez, c'est le XVIe siècle, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé depuis le début du XIXe. Ça, au moins, c'est vraiment exogène. Et effectivement, alors ils ont trouvé des chiffres qui sont basés... Alors c'est assez drôle, il y a des chiffres qui sont basés sur la mortalité des évêques en Amérique latine, qui étaient suivis de très près, évidemment, par le Vatican. Alors je ne suis pas sûr qu'il y ait tellement d'évêques non plus, mais enfin bon, je ne sais pas ce que signifie le taux de mortalité des évêques. Mais de façon plus rigoureuse, ils sont reposés sur les statistiques, alors beaucoup plus tardives, qui remonte au 19e, les statistiques justement des armées colonisatrices et des taux de mortalité des Anglais en Afrique ou en Asie, etc. Et c'est vrai que c'est assez remarquable. On met sur un graphique d'un côté la mortalité dans ces différentes zones du monde et de l'autre côté la protection des droits de propriété et on trouve une relation qui est forte. Et alors ça, évidemment, ça a déclenché tout un débat. Je crois qu'on peut aujourd'hui dire oui, non, il y a quelque chose qui est derrière tout ça. On peut pas, ce n'est pas une sorte de curiosum statistique. Ça a été reproduit avec d'autres types de statistiques. Par exemple, ils ont plus tard pris la densité de population. Dans les pays en développement, donc colonisés, au XVIe siècle. Et ils en ont aussi déduit un certain nombre de choses. Et le type d'argument qu'ils ont pour dire « c'est vraiment les institutions qui sont derrière », est le suivant. C'est-à-dire, finalement, pourquoi est-ce que des Européens se sont installés dans des endroits particulièrement insalubres, hostiles, etc. ? Parce qu'il y avait une rente à extraire. Donc il parle dans ce cas-là de société extractive ou prédatoire, prédatrice. Et l'idée étant exactement ça. Pourquoi est-ce qu'on reste alors que c'est des conditions épouvantables, qu'on risque effectivement sa vie, simplement parce qu'il y a de l'or à extraire, parce qu'on a pu amener des esclaves et qu'on cultive la canne à sucre qui est vendue extraordinairement cher, alors que dans d'autres pays colonisés, il n'y a pas du tout ce genre de ressources naturelles. Les Espagnols et tout le monde cherchaient de l'or aux États-Unis. On n'a pas trouvé d'or aux États-Unis, mais on a trouvé beaucoup de terres et très peu de gens. Et donc, il était possible d'installer beaucoup, beaucoup de colons travaillant la terre, éventuellement avec des petites propriétés. Et on voit bien comment s'est installée très rapidement une différence entre les institutions de l'Amérique du Sud, par exemple, les institutions de l'Amérique du Nord. Et leur idée est simplement de dire, voilà, il y a une permanence, une sorte de résilience des institutions. Au moment où il y a la révolution, l'indépendance latino-américaine, on a un nouveau pouvoir qui s'installe. Mais finalement, pourquoi est-ce que ce pouvoir remettrait en question les élites, le système prédateur qui est en vigueur? Ça coûte cher de modifier les institutions. Et puis finalement, ça favorise et c'est à l'avantage des élites qui prennent le pouvoir à ce moment-là. Donc il n'y a pas de raison de changer radicalement d'institution. Et de l'autre côté, dans la mesure où il n'y a pas une élite prédatrice qui s'est installée aux États-Unis avec cette masse de petits cultivateurs, on voit bien pourquoi, effectivement, les choses ont évolué de façon assez différente dans ces deux parties du monde, et éventuellement plus tard en Afrique et éventuellement dans certains pays d'Asie. Et là, il y a quelque chose qui est relativement intéressant, qui est effectivement de dire qu'il y a une permanence de l'histoire quelque part. Le Brésil est aujourd'hui... à la une de l'actualité avec les manifestations qu'il y a là-bas. J'ai travaillé un peu sur le Brésil là, ces derniers jours. J'ai trouvé quelque chose que j'ignorais complètement, qui est que... alors évidemment, on sait que ça a été une élite qui a colonisé le Brésil en se reposant sur l'esclavage. Mais une chose que j'ignorais complètement, la royauté portugaise a interdit à ce qu'il y ait une presse qui s'installe au Brésil. Pas d'écrit, pas de circulation intellectuelle, simplement parce que c'était jugé dangereux, parce que ça pouvait donner des idées aux gens, notamment plus tard, au moment où, au moment des Lumières, effectivement... la subversion était possible. Et je trouve que c'est un très très bon exemple qui montre que, effectivement, dans une société de ce type-là, pour qu'il y ait une évolution des institutions qui aille vers une société de droit plutôt qu'une autocratie, ou une démocratie plutôt qu'une autocratie, ça devient extrêmement difficile. Donc c'est ça l'idée de cette vision institutionnelle de la croissance. Mais le problème de cette vision institutionnelle, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est analysé, c'est plutôt des niveaux de revenus. Et là, on comprend pourquoi les niveaux de revenus peuvent jouer un rôle. Parce que les niveaux de revenus, ils décrivent finalement toute l'histoire d'un pays. Aujourd'hui, le niveau de revenus de la Chine est relativement faible. Il est à 4 000-5 000 $ par tête et par an. Grosso modo, un huitième du produit intérieur par tête en Europe ou aux États-Unis. Et ça reflète deux ou trois siècles de croissance très très faible et 30 ans de croissance accélérée. Et donc, dans ces conditions-là, on voit bien pourquoi les niveaux de revenus différents entre pays aujourd'hui dépendent des institutions qui ont gouverné ces différentes économies au cours du temps. Et cette histoire, l'idée de dire les institutions évoluent très lentement, et donc il y a un héritage considérable qui remonte à quelques siècles en arrière, est quelque chose qui est tout à fait compréhensible. Mais ça ne nous explique pas du tout les taux de croissance. Donc de façon relativement intéressante, on a le sentiment qu'il y a eu une sorte de... Et c'est vraiment présenté comme une avancée considérable de mettre en évidence le rôle des institutions dans la croissance économique. Puis vous voyez aussi les enjeux qu'il y a derrière ça. C'est tout de même aussi ouvrir l'économie à autre chose, aux sciences politiques, à l'histoire, à la sociologie, etc. Donc il y a quelque chose de vraiment très très important, mais en même temps, ça ne nous permet probablement pas de répondre à la question que je posais tout à l'heure, le rattrapage, est-ce qu'il y a des gens qui vont quitter le peloton et vont être capables de rattraper les échappés ? Simplement parce que ça, c'est plutôt les taux de croissance, et c'est plutôt les taux de croissance dans la période relativement récente et pour les années qui viennent. Donc c'est là où on en est avec cette théorie de la croissance, avec finalement une certaine incertitude sur quelles sont les politiques qui marchent, parce que l'analyse statistique ne nous permet pas vraiment de conclure. On a le sentiment, on a l'intuition que mettre de la concurrence, ouvrir les économies, c'est probablement quelque chose qui n'est pas mauvais. Mais en même temps, on a aussi le sentiment que de temps en temps, ouvrir, ça fait des dégâts. Ça élimine l'industrie d'un pays qui n'est pas encore concurrentiel. Donc on hésite beaucoup sur... recommander des politiques. Et puis la seule chose qu'on connaît, c'est non pas une relation entre politique et croissance pour chacun des pays. On a une idée sur la relation moyenne. C'est qu'en moyenne, sur l'ensemble des pays, peut-être qu'ouvrir, c'est bien. Mais si je prends un pays particulier, il n'y a strictement aucune raison de penser que pour ce pays particulier, ouvrir, c'est bien. Peut-être que pour ce pays particulier, ce n'est pas du tout une bonne chose. Et donc tout ça pour confesser que malgré des années d'efforts, notre connaissance des déterminants de la croissance est très imparfaite. Ceci ne veut absolument pas dire que si de bons économistes vont dans un pays particulier, ils ne seront pas capables de dire... voilà quels sont les freins à la croissance dans ce pays. J'ai eu un peu cette expérience quand j'étais à la Banque mondiale. Dans beaucoup de cas, on est quand même capable de dire c'est là qu'il y a le goulot d'étranglement. D'abord, tâcher de réduire ce goulot d'étranglement. Et puis après, on verra quel est le suivant. Et donc on n'est pas aussi désarmé. Mais pour dire de façon générale... on a un modèle, on a une représentation des déterminants relativement précis, déterminants de la croissance. Il faut accepter l'idée que non. Je vais terminer avec, en revenant à mon point de départ, qui est de dire, finalement, quand j'ai parlé de croissance là, j'ai parlé de... j'ai pas vraiment parlé d'accélération, j'ai parlé de la façon dont, sur une certaine période de temps... la croissance peut dépendre des politiques, peut dépendre d'un certain nombre de facteurs. Et donc on peut se dire maintenant, est-ce que ce ne serait pas une bonne chose de regarder vraiment ce qui détermine les accélérations ? Qu'est-ce qui fait que, soudainement, un pays est capable de croître pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans à des taux très élevés ? Et éventuellement, pourquoi est-ce que cette période s'arrête ? On a des phénomènes de ce type-là. Par exemple, on a des pays dans lesquels on sait que le gros du progrès de ces 30 ou 40 dernières années a eu lieu dans deux périodes particulières. On prend le Brésil de 65 à 72, peut-être même un peu loin, 73-74, juste au moment de la crise pétrolière. En quelques années, le Brésil a eu une croissance à la chinoise et a fait un bond en avant absolument considérable. En l'espace de 7-8 ans, le produit intérieur a presque par tête, a presque doublé. Il a fallu ensuite attendre pratiquement le début des années 2000 pour retrouver une période de ce type-là. Entre-temps, c'est vraiment la stagnation. Et des épisodes de ce type-là, on en a beaucoup. La Côte d'Ivoire, au moment de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est le miracle ivoirien. En quelques années, en 10 ans, le produit intérieur par tête ivoirien double. Au début, la Côte d'Ivoire n'est pas aussi riche que le Ghana. En quelques années, ils explosent véritablement le Ghana. Et puis, bien avant les troubles politiques... En fait, de nouveau, fin des années 70, avec la fin du boom sur le prix des matières premières, et notamment du café et du cacao, on a une décélération, et une décélération qui est absolument continue, qui fait que tout le progrès qui a été fait pendant les 10 premières années d'indépendance a été complètement gommé, et plus que gommé, dans les 10 années suivantes. Et d'une certaine façon, on peut presque dire que les troubles politiques avaient évidemment une origine ethnique évidente, mais que ce contexte-là a été aggravé par le fait que les performances de croissance étaient assez épouvantables. Donc la question, c'est si au lieu de regarder la croissance à tout moment ou la croissance moyenne des pays sur des périodes de 20 ou 30 ans, on essaye de s'intéresser à ces épisodes et de voir s'il y a des déclencheurs plus ou moins systématiques de ces épisodes, est-ce que ça ne permettrait pas de comprendre un certain nombre de choses et d'aller de l'avant. Alors il y a des gens qui sont intéressés à ça, on appelle ça l'analyse des épisodes de croissance rapide, les growth spells en anglais, et ça donnait un certain espoir à une certaine époque. Et puis, après avoir travaillé un peu, de façon un peu approfondie là-dessus, finalement, la profession se rendu compte que on ne savait pas grand-chose non plus. Mais même mais avec des choses complètement étonnantes, qui est... les trois thèmes qui ont été couverts, c'est ce qui va déclencher la croissance, c'est des réformes économiques importantes dans les 4-5 ans qui précède le décollage, c'est des événements politiques importants, et c'est éventuellement des chocs extérieurs importants, comme par exemple une modification des termes de l'échange, une augmentation du prix des matières premières, etc. Et quand on essaie de regarder si on trouve des relations un peu systématiques, très peu de choses. Les termes de l'échange, oui. Si soudainement le prix du cuivre augmente au Chili, en Zambie, etc., oui, ces pays croissent plus vite. Même chose avec le café, le cacao, le pétrole, etc. Là, il n'y a pas beaucoup de doutes. Quand on prend les réformes économiques, en particulier toutes les réformes de libéralisation économique ou les réformes financières, de développement financier, on ne trouve rien de véritablement significatif. C'est peut-être, si ça devait être quelque chose, c'est positif, mais rien de vraiment très très fort. Et quand on prend les événements politiques, alors évidemment, les événements politiques, il faut faire une distinction entre ceux qui sont favorables et ceux qui sont défavorables. Et alors, la variable de base, c'est une variable qui vient de cette base de données Polity4. Dans lequel des politologues ont essayé de donner une note sur la qualité de la gouvernance politique dans différents pays. Et donc, on peut faire une distinction entre les pays dans lesquels il y a une augmentation, une amélioration de la gouvernance, et ceux dans lesquels il y a une diminution, une évolution de la gouvernance vers le bas. Donc typiquement, des progrès démocratiques d'un côté et des progrès antidémocratiques de l'autre, un coup d'État avec un dictateur qui s'installe, etc. Et là, c'est relativement étonnant. On se rend compte que dans les deux cas, ça joue plutôt un rôle positif, d'ailleurs, mais dans un sens ou dans un autre. Quel que soit le... Et c'est plutôt le choc. C'est plutôt l'idée, c'est ça, qui est derrière ça. C'est-à-dire, finalement, il y a un changement et les anticipations bougent. Ça peut être un régime populiste qui s'installe. Et effectivement, c'est un petit peu Chavez durant les premières années de Chavez. Mais ça peut être aussi un régime civil, je sais pas, le Chili, l'après Pinochet du Chili, où soudainement, sur les cinq années qui ont suivi, c'est la véritable explosion économique, alors que les conditions n'avaient pas fondamentalement changé par rapport à l'époque de Pinochet. Donc, tout ça pour dire que on est relativement ignorant de ce qui déclenche ces accélérations, mais encore une fois, on n'a pas de théorie générale. On a des éléments pour des pays particuliers qui nous permettent de dire voilà quels sont les goulots d'étranglement, voilà quels sont les freins à la croissance. Si vous vous débarrassez de ces freins, vous devriez normalement accélérer la croissance, mais quand, on n'en sait rien. Ça peut... L'un des problèmes des analyses qui sont faites par les statisticiens, les économistes, avec leur casquette de statisticien, c'est le fait que on impose une sorte de séquençage assez strict de ces effets. On voudrait qu'un changement politique ait un impact sur le processus de croissance dans les 2 ans, 3 ans, 4 ans qui viennent. Peut-être que ça va prendre beaucoup plus longtemps. On voudrait qu'une réforme économique ait un impact dans les 4 ans, dans les 5 ans qui suivent. Peut-être que ça va prendre beaucoup plus de temps. Peut-être qu'il faut que les gens, les acteurs, les agents économiques se fassent à un nouveau système, à un nouveau fonctionnement. Et ça, on n'arrive pas à le maîtriser, on n'arrive pas à trouver les instruments statistiques qui nous permettraient d'analyser ça en se disant « Oui, mais les délais de réaction d'une économie dépendent de l'économie elle-même. Peut-être que les délais de réaction en Afrique sont beaucoup plus rapides que les délais de réaction dans tel pays asiatique ou dans tel pays latino-américain. » Et on a une situation dans laquelle... on a une connaissance ou une intuition basée sur nos analyses des déterminants primaires et éventuellement politiques de la croissance. Mais de nouveau, ça n'est pas une théorie qui nous permet de faire des recommandations un peu tous azimuts à tout pays. La Banque mondiale ou le Fonds monétaire n'ont absolument pas de recettes permettant de dire à un pays « Faites ceci et vous êtes obligé de croître relativement rapidement ». Et la difficulté de ça, c'est que si on fait une recommandation en disant « Si vous allez dans telle direction, si vous libéralisez tel secteur », normalement, ça devrait améliorer les choses. Je prends un exemple. On prend le cas du Mexique, dans lequel il y a un secteur qui est très particulier, qui est le secteur des télécommunications, qui, comme vous le savez peut-être, est dominé par un monopole absolu, dont le propriétaire est l'homme le plus riche du monde, qui est Carlos Slim. Ce qu'on peut montrer, c'est que ce monopole a un impact sur l'économie mexicaine qui est catastrophique. Pourquoi ? Simplement parce que le Mexique est probablement l'un des pays du monde dans lequel la télécommunication, la connexion à Internet, etc., est la plus chère du monde. Donc, quelque part, toutes les activités qui dépendent beaucoup des techniques de communication et d'information sont handicapées par ça. Et quelque part, il y a cette situation de monopole est un facteur de ralentissement. Donc, on a dit, et beaucoup de gens donnent le conseil au Mexique, de liquider ce monopole. Évidemment, c'est jamais quelque chose de facile à faire. Mais disent au gouvernement, voilà, il faut que vous fassiez quelque chose. Mais on n'a strictement aucune idée sur le temps qu'une telle réforme va mettre à produire des effets. Et si vous faites ce genre de réforme, et si dans les 2 ans, 3 ans, on ne voit pas des effets directs, alors à ce moment-là, on remet complètement en question l'analyse qui a été faite, et on déclare que finalement, l'économie ou les économistes ont relativement peu de choses à dire pour expliquer la croissance, et la croissance redevient quelque chose de strictement magique. Alors, on n'est pas dans cette situation-là. J'ai commencé en disant il y a tout de même des déterminants primaires qui sont évidents. Si on accumule beaucoup, on croit très vite. Il faut éventuellement mettre un petit peu de caveat dans cette affirmation, parce que encore faut-il que les investissements soient de vrais investissements. À l'époque du boom pétrolier, dans des pays comme le Venezuela, il y a eu des investissements absolument gigantesques mais c'était complètement bidon. C'était une façon pour des gens de s'approprier une partie des revenus pétroliers. Donc, alors évidemment, sur le papier, on avait investi dans... c'est la fameuse histoire du dictateur africain qui... vous connaissez certainement cette histoire-là, un dictateur africain qui rend visite à un autre dictateur africain, qui le reçoit dans sa maison. On lui dit, mais tu as une maison absolument magnifique, extraordinaire, mais comment, c'est pas tes émoluments comme président qui te donnent ça. Et l'hôte se tourne vers son invité, lui dit, tu vois la route qui est là-bas? Et il dit, oui, je vois, dit, c'est une route à péage. Et l'invité comprend immédiatement qu'effectivement, les péages vont dans la poche du président. Et la fin de l'histoire, c'est la réciproque un an plus tard. L'invité est devenu hôte. Il accueille son invité dans un palais tout à fait extraordinaire. Il dit, écoute, tu t'es drôlement bien débrouillé. Et comment tu as fait? Il lui dit, tu vois la route là-bas? Non. Voilà. Donc voilà, c'est pour dire que les choses ne sont pas non plus aussi simples, mais je crois qu'il faut garder l'idée que oui, il y a des déterminants primaires qu'on connaît bien. Maintenant, le problème est de savoir comment déclencher, comment mettre en route ou allumer ces moteurs de base que sont qu'est l'accumulation dans ces pays-là. Bon, donc je termine en disant, est-ce que le rattrapage va avoir lieu? Il y a quand même une constante qui... Il y a quand même deux, trois choses qui sont un peu solides. Il y a une constante qui est assez claire, qui est que l'idée que j'ai indiquée au début, le rattrapage, les économies émergentes ont un avantage sur les économies développées, qui est qu'elles n'ont pas cette frontière technologique à repousser. Ça, on constate qu'effectivement, il y a une différence systématique dans les taux de croissance des économies développées et des économies en développement. Les économies en développement croissent plus vite, toutes choses égales par ailleurs, que les économies développées. Donc, de ce point de vue-là, il y a un rattrapage. Et ça n'est pas la Chine et l'Inde qui sont responsables de ce résultat-là. Même quand on enlève, quand on regarde les autres pays, il y a véritablement toutes choses égales par ailleurs, et à l'accumulation égale par ailleurs, il est exact que la croissance est plus rapide. Donc il y a un rattrapage qui est en cours. Si on se fie uniquement à ce facteur-là, ça prendra énormément de temps pour que le peloton rattrape les échappés. Il n'y a pas beaucoup de doute à avoir sur le fait que il y a un effort considérable à faire de la part de ces pays-là pour que le rattrapage ait lieu. La Chine a fait quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je l'ai dit tout à l'heure, la Chine est encore au huitième de là où sont les pays développés. Alors effectivement, parce qu'il y a plus d'un milliard d'habitants en Chine, ils seront très rapidement la première économie mondiale. Mais ça, c'est un effet de taille, c'est pas un effet de croissance. Donc il faudra encore beaucoup de temps pour que ce rattrapage ait lieu. Il aura lieu. Certaines de ces économies émergentes vont rattraper, même si les économies développées aujourd'hui sont en train de ralentir, et probablement que ce ralentissement est quelque chose de durable. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres contraintes qui vont peser sur l'économie mondiale si ce processus de rattrapage se prolonge? On ne peut pas ne pas penser que les contraintes environnementales se mettront à peser un jour ou un autre, et qu'il faudra effectivement revoir à ce moment-là la façon dont l'économie mondiale peut accommoder ces contraintes environnementales. Il y a un autre phénomène qui n'est pas très très bien mis en évidence, n'est pas très bien perçu, c'est quel est véritablement l'effet de la mondialisation sur ces croissances nationales. La mondialisation, c'est tout de même avant tout une dénationalisation de la production. c'est des grandes entreprises qui ont pratiquement plus de nationalité. Bon, elles ont toujours un nom, elles sont toujours associées à un pays, mais elles opèrent dans l'ensemble du monde pour maximiser leur profit de très long terme. Des multinationales, il y en a de plus en plus. Les économies émergentes ont créé des multinationales qui sont des entreprises importantes. Donc, si une partie de la croissance mondiale passe par ces multinationales, ce qui est véritablement le cas, il est possible que la notion de croissance nationale perde de son intérêt, de sa valeur analytique. Donc, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que le rattrapage est en route, qu'il va continuer même avec le ralentissement de l'économie mondiale qu'on est en train de connaître. Ça va continuer encore pendant un certain temps. Est-ce qu'on peut imaginer que ça aille jusqu'au rattrapage complet ? Il se passera beaucoup, beaucoup de choses bien avant. Et je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup, Valentin.